EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour, bonjour. Alors, heureuse de commencer cette semaine avec vous dans À table avec Annabelle. Et un grand merci à toute la famille des partenaires. Et je veux vous rappeler que nous sommes aussi sur Freebox en France, sur la chaîne 249. Alors, c'est facile de pouvoir le dire. Du coup, maintenant, vous croisez des gens. Ah, EMCI TV. Ah, mais il y a plein de super émissions. Ça va vous faire du bien. Vous êtes chez qui? Free. Excellent. Chaîne 249 et ils vont pouvoir allumer leur télé et tomber sur une émission d'À table, prière inspirée, bonjour chez vous, etc., etc. Et on prie que leur cœur puisse être touché. Et tu sais, quelquefois on se dit il faudrait qu'ils tombent exactement sur telle et telle émission pour pouvoir vivre un moment. Mais franchement, souvent le Saint-Esprit va nous étonner. Les gens vont tomber sur l'émission qu'on n'aurait surtout pas choisie pour eux. Et pourtant, il va y avoir une phrase, un mot qui va toucher leur cœur. Donc n'hésitez pas, c'est aussi une façon facile de pouvoir parler du Seigneur aux gens et de pouvoir leur donner une ressource pour qu'ils puissent avoir, pas un suivi, mais en tout cas qu'ils puissent avoir une continuité à votre témoignage, à ce que vous avez semé dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on a été très heureux de pouvoir être sur la Free en France, parce que ça nous donnait l'opportunité de rentrer dans des millions de foyers de façon très très facile. Mais maintenant, encore faut-il que les gens sachent où nous trouver. Donc chaîne 249 sur la Free en France. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et avec Sandra. Bonjour les filles.
Bonjour Annabelle.
En forme?
Oui.
Oui,
en toujours.
Forme. Toujours. Excellent, j'aime ton enthousiasme, Sandra. Alors aujourd'hui les filles, on va recevoir Mylène qui va venir nous partager son histoire, comment au bout de quelques années de mariage finalement, elle est devenue veuve. Et c'est sûr que c'est un choc et c'est tout un temps de deuil. Mais elle va nous raconter comment Dieu l'a relevé. Et c'est vraiment encore une fois une belle histoire de la bonté, de la fidélité de Dieu dans les moments qui semblent être les plus sombres de notre vie, où on se dit il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas de jour meilleur. Et pourtant, oui, il y a un jour meilleur, un jour nouveau s'est levé dans sa vie, mais elle va nous le raconter. Alors on accueille tout de suite avec nous Mylène. Salut Mylène et bienvenue.
Bonjour
à table avec nous.
Bonjour.
Contente de te voir. Donc Mylène, toi tu es de Saint-Étienne en France.
C'est ça.
Et alors nous avons une Lyonnaise à table aussi, Sandra. Alors
j'essayais de rester poker face. Mais...
Alors j'aimerais vous demander les filles, s'il vous plaît, d'être cordiales les unes envers les autres. Vous êtes nées de nouveau, vous êtes des enfants de Dieu.
Pleines d'amour.
Alors à tous les Stéphanoises.
Je fais pas d'emoji au cas où, mais
à toutes les Lyonnaises et les Stéphanoises qui nous suivent, envoyez-vous des messages d'amour aujourd'hui. Mettez-vous des commentaires pour témoigner de votre nouvelle naissance. Exactement, Sandra. Mais Mylène, on n'est pas là pour parler de Lyon aujourd'hui. On est là pour parler de ton histoire, comme je disais. Tu t'es mariée. Tu avais 27 ans, c'est ça? 27 ans quand tu t'es mariée.
C'est ça.
Et à 31 ans, la vie a basculé. Tu as perdu ton mari et tu vas pouvoir nous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé, mais c'est certain que j'imagine c'était pas la vie que tu avais imaginé, c'était pas les projets que tu avais imaginé. Alors est-ce que tu peux peut-être nous raconter déjà pour commencer comment c'était ton mariage quand tu te maries à 27, 28 ans, vous êtes encore des jeunes mariés, comment ça se passe pour vous?
Ouais, c'est ça. Ben en fait, Gauthier, c'était une évidence. On s'est rencontrés. J'avais 23 ans et puis il en avait 26. On s'est rapidement un jour on s'est écrit puis on s'est plus jamais quitté. Après une vie commune, il m'a demandé en mariage le jour de mes 26 ans. Et donc à l'âge de 27 ans, je me suis mariée. Donc à l'époque à l'Église catholique, hein, parce qu'en France culture tradition catholique. Moi je suis quand même d'origine, enfin d'une famille athée, donc bon j'ai toujours aimé Dieu, donc c'était important pour moi de me marier à l'Église. Donc on s'aimait profondément. Ensuite, bah rapidement, un an après, on a eu notre petit garçon, Marius, qui aujourd'hui a 6 ans. Et puis bon, il faut raconter que en fait donc c'était tout parfait, hein, le mariage, l'amour de rêve, le mariage parfait, le bébé tout de suite qui arrive, le petit garçon en plus, j'avais prié pour avoir un garçon, Dieu m'a donné un fils, donc j'étais vraiment dans la joie, enfin tout était dans l'ordre, et je me suis dit enfin toutes les galères du passé, bah elles sont passées, et pour le coup, ben bah, là maintenant je vais vivre avec mon mari, je vais avoir, on va nous comment on voyait les choses, bah, on allait avoir 2 ou 3 enfants, une jolie petite maison, et puis avoir un travail, et puis voilà quoi, et puis vieillir ensemble, et puis avoir plein de petits enfants, peut-être même des arrière petits enfants, et puis voilà la vie était, enfin moi j'avais imaginé ça comme ça en tout cas. Et puis le lendemain de mon accouchement, en fait j'ai perdu mon papa. J'avais alors 28 ans. Et donc là, tout a chamboulé dans notre mariage parce qu'en fait, j'ai récupéré la garde de mes 2 petites sœurs mineures. Et donc ça a créé déjà quelque chose dans le foyer. Je venais d'être maman, je venais juste d'accoucher, hein. Je venais d'être maman. On venait d'avoir notre maison, on était jeunes mariés. On se retrouve avec 2 ados. Quand bien même elles sont adorables, on se retrouve quand même avec 2 ados à la maison. C'était pas forcément le plan prévu. Comment on va faire, parce que du coup on avait le projet d'avoir d'autres enfants. Donc, plein de questions se posent, et puis bon, un an et demi après la naissance de Marius, on apprend que Gauthier, il a seulement alors 32 ans, et on apprend que Gauthier est atteint d'un cancer du pancréas sur la tête, et qu'il lui reste 3 mois à vivre. Donc bah, c'est le choc. C'est le choc profond, on s'y attend pas, pourquoi, comment, les médecins l'expliquent pas, aucun antécédent qui fait que Gauthier devrait avoir ce cancer-là. Donc on vient d'avoir notre fils, enfin bon, ça nous tombe, comme on dit, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, mais vraiment, parce que là, tout s'effondre. Et puis je lui dis, mais non, allez, ça va le faire, on y croit, on va se battre, nanana. Et puis en fait, les statistiques sont là, et puis donc il se bat pendant 1 an, et puis alors qu'il a seulement 33 ans et moi 31 ans, il décède donc en avril 2021. Notre petit garçon a seulement 2 ans et demi, donc c'est dur. Je perds tout, c'est encore de l'émotion, voyez, parce que c'est une épreuve qui est à vie. Quand bien même des choses se sont passées, il y a des cicatrices. Vous savez, j'ai tendance à dire un peu, c'est un peu comme les guerriers, ça a beau être les meilleurs guerriers du monde, ils ont beau être encore vivants, il y a des cicatrices sur eux. Et quand bien même ces cicatrices-là ne font plus mal, on peut appuyer dessus, elles restent visibles. Bon, moi, elle est enfouie, mais elle est quand même présente, cette cicatrice-là. Et donc, quand Gauthier décède, eh ben, je perds tout. Je perds tout parce que c'était mon mari, mon meilleur ami, c'était l'amour de ma vie, c'est le père de mon fils. Pour moi, c'était tout. Donc, c'était impossible pour moi de... Enfin, j'ai toujours tendance à dire que le jour où Gauthier est mort, je suis morte avec. Et donc, en fait, je suis passée un peu en mode robot. C'est-à-dire que parce que j'avais mon fils, je me suis obligée à vivre. Mais intérieurement, en fait, j'étais vivante physiquement. Je me levais le matin, je m'occupais, je faisais des tâches routinières. Mais en fait, intérieurement, j'étais complètement vide et complètement morte. Cependant, là où c'est extraordinaire, c'est là que Jésus intervient. C'est-à-dire que dans cette épreuve-là, durant la maladie de Gauthier qui dure 1 an, moi je suis donc en arrêt de travail, je m'occupe de Gauthier, je m'occupe de Marius, voilà, j'allais tous les jours à l'hôpital, et en plus c'était en plein Covid, Du coup, plutôt compliqué pour accéder à l'hôpital. Il a fallu que je fasse tous les vaccins. Enfin, on voyait plus personne. C'était très particulier parce que c'est le moment où on a le besoin le plus des gens. Et en fait, on se rend compte que, ben, à cause de cette épidémie-là, on est fermé, on est barricadé. Donc ça mettait une barrière en plus, quoi. C'était terrible. Et puis donc j'ai rencontré Jésus durant l'année de maladie de Gauthier. Où en fait, je me disais, bon, c'est terrible, je pleurais à la maison, et je me disais, bon, voilà, mon mari est malade, j'ai perdu mon père, il va falloir quand même que je travaille là-dessus. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que j'agisse, en fait. J'ai toujours aimé profondément Jésus. Et là où il est fidèle, c'est que quand, eh ben, c'est qu'il répond au moment où on est au plus bas. Et ça, c'est vraiment une vérité. Dans tous les témoignages du monde, on se rend compte que là où Jésus vraiment apparaît le plus solidement possible, c'est dans les épreuves les plus dures. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, j'ai cherché, en fait, parce que je ne savais pas vers qui me tourner. J'étais toute seule. Et je ne savais pas à qui parler de ça, parce que je me suis dit, mais tout le monde va me prendre pour une folle, en fait, dans ma maison. Je ne sais pas à qui parler de ça. Et donc, je vais sur YouTube et je regarde deuil, etc. Et je tombe sur une émission de prière inspirée avec Jérémy Sourdrille qui parlait du deuil, mais c'était en 2020 et c'est une émission qui avait déjà 2 ans. Et en fait, vraiment, cette émission m'a bénie profondément. Et c'était plus par rapport à mon père, en fait, parce que Gauthier était vivant encore et je refusais de croire qu'il allait mourir. Forcément, quand on tient à quelqu'un, on veut pas s'avouer la vérité. C'est-à-dire, et c'est là où c'est fou, parce que le malade, lui, est conscient des choses, alors que le vivant à côté, lui, est complètement dans le déni. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans le déni. Et puis, donc, j'ai commencé à prier. Et puis, tous les jours, je regardais MCI TV avec toutes les émissions. Alors, à l'époque, c'était pas À table avec Annabelle, c'était Parole de femme. Mais voilà, je regardais toutes les émissions. Bonjour chez vous. Matin, midi, soir, je mangeais à MCI TV. J'ai commencé à lire ma Bible. Vraiment, et puis, je disais, voilà. Puis, je commençais à parler au Seigneur. Et puis, des fois, mes sœurs, elles me disaient, mais tu parles à qui? Tu parles toute seule? Je disais, mais notre sœur, elle est complètement folle. Et puis, je disais, non, non, mais je parle à Dieu, mais vous pouvez pas comprendre, mais c'est pas grave, je sais qu'il m'écoute. Alors, je parlais, on avait des conversations, bon, bref. Et puis, quand Gauthier est décédé, donc là, bien évidemment, le drame, j'ai tellement hurlé à l'hôpital que mes propres cris m'ont hanté, je crois, pendant quasiment 6 mois où j'ai pas dormi. Mais malgré ça, malgré cette douleur profonde, parce que encore une fois, ce jour-là, je suis morte avec lui, j'ai continué de prier et d'aimer Dieu. C'est-à-dire que là où tout le monde me disait autour de moi, ah, tu vois ton Dieu, regarde, il a pas sauvé ton mari, tu parles d'un Dieu, il a rien fait, regarde dans quel état il te laisse, si Dieu existait, Gauthier serait pas décédé. Enfin, voyez toutes ces choses-là, en fait, qui sont dans l'opposition, je les ai eues en pleine figure. Et en fait, j'ai fait le choix de pas écouter toutes ces personnes. D'abord parce que ils sont ignorants. Deuxième chose parce que chacun a réagi à sa façon face à la douleur. Et troisièmement, parce qu'ils étaient dans la douleur, ils ne savaient pas comment réagir. Et moi, ayant la chance d'avoir connu Dieu au milieu de la maladie de Gauthier, je savais en fait qu'il ne m'abandonnerait pas. Ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas les pleurs toutes les nuits, ça n'empêche pas le questionnement. Mais par contre, ça aide énormément chaque matin à se lever et à continuer d'avancer. C'est là où ça fait toute la différence. Donc voilà, donc Dieu est vraiment, il est extraordinaire. Moi, je l'aime de tout mon cœur parce qu'il m'a sauvé face à ça. Et donc voilà, ça a été un vrai combat spirituel, je peux le dire, parce que il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fois on hurle en disant, mais tu m'as lâché là, enfin j'y arrive plus en fait. Et en fait, on regarde tout ce qui se passe et on voit aujourd'hui les choses. Alors, il y a aussi le côté, je vais dire à des femmes, c'est que il y a aussi le côté hésitation. Le diable vraiment intervient tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand Gauthier est décédé, la douleur était tellement grande qu'on recherche des choses complètement paranormales. Au-delà de prier Dieu, je connaissais des personnes qui étaient plutôt dans le les cartes, les choses mm-hmm. ésotériques, on dit, je crois, ésotérisme. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, elle me disait, oui, Gauthier m'a parlé aujourd'hui, m'a dit qu'il pensait à toi. Là, par exemple, il te voit, etc. Et en fait, c'est des choses, quand bien même on croit à Dieu, qui sur le moment font du bien, parce qu'en fait, nous ne sommes ni plus ni moins que des êtres humains. Et donc, forcément, quand on a la perte brutale d'une personne proche, on recherche quand même mm-hmm. encore ce lien-là. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, ce que j'ai compris, c'est que le plus dur, finalement, c'est le côté charnel. C'est-à-dire, en fait, quand on sait qu'il n'y a plus la personne charnellement, c'est ça qui est terrible. Parce qu'en fait, on reverra plus jamais cette personne. Et ça, l'être humain, elle accepte pas du tout, parce mmh. qu'on est dans le toucher, dans le matériel, dans le physique. Et donc ça, c'est terrible. Et donc, quand on nous dit des choses comme ça, on se dit « Ah ouais, super, il me voit. Ah ouais, alors... » Et puis, on commence à parler. « Oh là là, mmh. t'as vu, chérie, notre fils, nanana, il fait ça. » Puis en fait, on s'éloigne complètement de la vérité et de l'évangile, des paroles qui sont écrites par Dieu. Mais... c'est pas grave. Si, je veux dire à des femmes que si vous vivez ce temps, c'est pas grave. Ne soyez pas dans la culpabilité. Vous êtes juste dans une épreuve et vous vous battez avec les armes que vous avez en fonction de qui vous êtes et d'où vous vivez et de tout ce qu'il peut y avoir dans votre environnement. Moi, suite à ça, donc, j'ai continué à prier, à regarder les émissions de MCTV jusqu'au jour où Dieu m'a dit. Et dans une émission, il m'a parlé en me disant « Et la communauté fraternelle, c'est quand même hyper important. Tu peux pas rester mm-hmm. toute seule chez toi juste à regarder les émissions. » Ok, bon, et ben par contre, comment on fait? Parce que moi, en fait, à Saint-Étienne, en France métropolitaine, c'est principalement le catholicisme. Donc là, va falloir m'aider parce que je sais pas du tout où aller. Et puis, donc j'ai demandé au groupe MCTV des adresses d'églises évangélistes en France métropolitaine. Une liste m'a été envoyée. J'ai regardé donc autour de chez moi à Saint-Étienne. Il y en avait plusieurs. Et systématiquement, mes yeux se posaient sur une église. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai dit « Ok, Seigneur, j'ai compris. Je vais aller là-bas. » Alors, j'ai dit à mes sœurs « Bon, bah voilà, écoutez, dimanche, je vais dans cette église. Par contre, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bon, alors du coup, je vous emmène pas. J'y vais. Et puis, en fonction de ce qui se passe, et si c'est bien, et ben, je vous dirai et je vous emmènerai. » Elles me disent « Ouais, ok, bah si ça te fait du bien. » Moi, il faut savoir d'abord mm-hmm. je suis l'aînée, en fait, d'une famille de 5 enfants. Donc, du coup, je suis un peu l'autorité. Donc, forcément, quand je dis autant mes petites sœurs m'auraient dit ça, moi, je me serais permise de leur dire « Non, mais ça va pas du tout ta tête. » Autant elles n'ont pas du tout osé me le dire. Elles m'ont dit « Bon, bah, si ça te fait du bien, vas-y, quoi. » Alors, voilà, ça fait que j'y suis allée. Et vraiment, waouh, la grâce de Dieu m'a touchée. Je savais que j'étais à la bonne place. J'ai ressenti une paix. Jamais je pourrais... Enfin, seul vous comprenez ce que je veux dire, mais vraiment une paix extraordinaire. Dieu m'a touchée. Et puis mon deuil a avancé sur ce sujet-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand bien même je pleurais, j'étais quand même dans la paix et dans l'amour, en sachant que vraiment Dieu... allait me restaurer et il m'a restauré. Il m'a profondément restauré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler, peut-être parfois avec des émotions dans la voix, mm-hmm. mais c'est quelque chose qui encore il y a un an, j'aurais jamais pu faire. D'abord parce que j'étais bloquée et que je voulais pas du tout en parler. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la joie de dire, bah oui, c'est vrai, j'ai vécu quelque chose de terrible. Est-ce qu'il me manque? Oui, il me manquera toute ma vie, mais par contre, waouh, quelle grâce que Dieu m'a donnée de cette épreuve où il a montré que dans la faiblesse, on était fort, que vraiment, je me suis occupée mm-hmm. de mon fils. Il m'a permis ça, il m'a permis de m'occuper de mes sœurs, il m'a donné un toit, il m'a donné à manger tous les jours, alors que pour certaines femmes qui se retrouvent veuves, on peut se retrouver à la rue, on peut se retrouver sans rien, mm-hmm. et moi, il a pourvu à tout, vraiment, j'ai une grâce infinie sur moi, et mon fils vraiment est un petit garçon extraordinaire, et donc c'est chouette, et puis surtout Dieu m'a bénie parce que j'ai rencontré des frères et des sœurs extraordinaires à l'église, où chacun, on se rend compte que chacun a des épreuves de vie vraiment mmh. difficiles, et là où Dieu m'a profondément bénie, Moi, j'attendais rien, en fait, si vous voulez, parce que je refusais de me remarier, je refusais de porter un autre
avant,
nom.
Avant qu'on aille
bien sûr.
Au nouveau chapitre de ta vie.
Oui,
on va peut-être juste prendre un petit temps pour revenir sur cette période de deuil, parce que comme tu l'as expliqué, tu as rencontré, toi, Jésus de façon personnelle, alors que Gauthier était malade, et puis il est décédé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça arrive, tu rencontres le Seigneur, ou tu vis quelque chose, tu connais même déjà le Seigneur, mais quand le sommet de l'épreuve arrive, ça peut remettre tellement de choses en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très touchant dans ton histoire aussi, Mylène, c'est de voir que au milieu de l'épreuve, tu t'es attaché sincèrement au Seigneur, sans pour autant repousser la douleur, sans être dans ce déni de l'épreuve. Voilà, je souffre, c'est pas beau à voir, il y a tout un tas de choses et tout ça, mais en même temps, je vais m'accrocher au Seigneur. Et je crois que ça, c'est vraiment une clé dans l'épreuve, c'est de se dire, c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. On se dit, Seigneur, si t'étais là, il n'y aurait pas toute cette douleur, il n'y aurait pas tout ça se serait pas passé, mais au final, ça s'est passé, il y a cette douleur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller loin de Dieu ou est-ce que je vais m'approcher de Dieu? Et ça, c'est une vraie bataille, en fait, dans les moments où on ne va pas bien et particulièrement dans des moments de deuil. Mylène disait tout ce qu'elle a pu entendre et vraiment, je me dis, mais c'est extraordinaire, en fait, comment t'as pu garder et protéger ta foi, parce que quand tout le monde te dit autour de toi, mais pourquoi Dieu n'a pas fait, où est ton Dieu, etc., c'est des choses qui peuvent faire naître en nous beaucoup de doutes et d'incrédulité. Donc vraiment, je voulais déjà revenir sur ça, parce que pour moi, ça, c'est vraiment une leçon extraordinaire d'amour qu'on peut avoir envers Dieu, mais de la fidélité aussi de Dieu.
Oui, Annabelle, il y a ça, mais il y a tellement de choses dans l'histoire de Mylène qui sont très, très pertinentes par rapport aux personnes qui passent par des moments difficiles. Et il y a ce que tu viens d'apporter. Et aussi, tout ce côté où tu vois, moi, je le comprends, parce que moi-même, j'ai vécu ça quand mon frère est décédé. C'est qu'à un moment, le Seigneur, il est là, il te tient. Et cette force de tenir, ça vient même pas de toi, en fait. Parce que si ce n'était que toi, en fait, t'allais lâcher prise, mais c'est juste le fait d'être proche de lui, de venir dans sa présence. Mmh. On n'a pas besoin de mots, de tout ça à ce moment-là, et c'est comme il y a une force qui vient te tenir. Et une chose que ça produit, que je vois aussi dans l'histoire de Mylène, c'est qu'à un moment, et je crois que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tu te retrouves en train de bénir Dieu pour ce que tu as. Mmh. Comme là, elle a dit, merci Seigneur pour mon fils, j'aurais pu être une veuve à la rue, mais j'ai un toit, j'ai ceci, j'ai cela. C'est que l'œuvre de consolation du Saint-Esprit, ce que ça va produire à l'intérieur de toi, c'est de voir, en fait, parce que t'es dans une situation où tu vois pas. Tu vois pas parce que tu as perdu tes repères naturels. Et là, le Saint-Esprit vient te montrer. Il vient mettre le doigt dessus. Je me rappelle quand mon frère était décédé, j'étais comme, merci Seigneur, même pour les bagarres qu'on a eues, quand on était plus petit. Merci pour le temps que tu m'as permis de passer avec lui. Merci pour tout le chemin qui a été parcouru. Et je savais que c'était une œuvre de restauration qui était en train de se faire. Et quand j'écoute l'histoire de Mylène, je vois ce travail de l'esprit qui vient ouvrir tes yeux sur certaines choses parce que il veut que tu le vois. Il veut que tu saches qu'il est là. Donc, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et vous passez par des temps très difficile pour passer par cette période de deuil, mais de la même manière que Mylène l'a dit, on veut le répéter encore, Dieu est avec vous.
Amen.
Et il faut pas, parce que ça aussi, je l'ai vu, ça ne me concernait pas directement, mais ça concernait certaines personnes de mes proches que je connais. Des personnes vont venir vous proposer des solutions bizarres. Ils vont venir vous dire, on peut aller voir telle chose. Mylène a parlé des cartes. D'autres personnes, c'est peut-être des marabouts. On va vous proposer. Et tellement le cœur de l'homme aussi veut comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, que c'est comme on est plus fragile en fait à ce moment-là et on risque de s'ouvrir à beaucoup de choses qui ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. Donc faites attention si vous êtes dans des périodes comme ça où c'est difficile, n'embrassez pas tout, mais restez dans cette présence de Dieu et restez là, même si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas de mots. Quand mon frère est mort, ma voix ne sortait même plus. Je pouvais pas dire que j'articule, j'avais perdu la voix, mais juste rester dans la présence de Dieu, il va vous guérir, même si ça prend du temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y a une œuvre de l'esprit qui est en cours lorsqu'on choisit de lui faire confiance.
Et donc, Mylène, tu disais que tu ne t'attendais à rien de... à rien de spécial, si ce n'est peut-être d'être restaurée, de pouvoir continuer de vivre et de t'occuper de ton fils. Et là, tu nous as juste entre-ouvert un nouveau chapitre. C'est que donc, tu t'es attachée au Seigneur et puis on a vu comment il a été fidèle. T'as rejoint une église et t'as rencontré aussi toute une nouvelle famille finalement. Et là, en fait, il y a comme une nouvelle étape même dans la restauration. Donc vas-y, nous t'écoutons.
Merci. Oui, et en fait, c'est là que Dieu est extraordinaire parce qu'en fait, Dieu a réouvert les vannes que j'avais fermées. C'est-à-dire que moi, j'avais tout verrouillé et puis je me disais, c'est pas grave, je serai bien, je serai avec mon fils, je serai avec des copines, même quand je serai vieille, bon, c'est pas grave. Et en fait, Dieu un jour m'a montré un homme à l'église et puis j'ai dit non mais c'est pas pour moi Seigneur, tu t'es trompée, je suis désolée mais il est beaucoup trop bien pour moi. J'aurais jamais un mari comme ça, c'est pas possible. Et puis non, je suis pas là pour ça, mais surtout je l'avais repéré, pour moi c'est le plus beau de l'église et j'avais dit non, c'est pas pour moi, c'est impossible. Et puis, donc suite à ça, j'ai pas écouté Dieu, parce qu'on va pas se mentir, quand on est jeune chrétienne, quand bien même on a le feu, il y a des fois on n'écoute pas tout, on maîtrise pas exactement toutes les paroles du Saint-Esprit, on n'a pas encore la sagesse. Moi, en tout cas, c'est une prière de chaque jour, et donc du coup, je suis une grande impatiente, sachant que Dieu m'avait dit que c'était cet homme, mais comme cet homme ne s'avançait jamais vers moi, ne me parlait pas, et comme je suis impatiente, j'avais dit, bon, je me suis trompée, c'est pas ça, c'est une voix, j'entends n'importe quoi, c'est ce que mon cœur voulait, mais c'est pas ce que tu veux. Bon, c'est pas grave, next. Et puis malheureusement, ouais. Et donc, du coup, on fait des bêtises, quand bien même on est chrétien, on fait des bêtises. Et puis, donc, du coup, moi, j'ai fait une bêtise, c'est que je suis sortie avec un garçon, un laps de temps, quand malgré la vie négative de mon pasteur adoré, je suis sortie avec ce garçon-là. Et puis, vraiment, Dieu m'a parlé, et au bout d'un moment, il m'a dit, t'arrêtes ou comment ça se passe là? Enfin, vraiment, j'ai un peu comme un papa qui dispute, mais dans l'amour, pas dans quelque chose de mauvais. Et j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, j'ai quitté ce garçon. Une paix incroyable et un soulagement incroyable. Je me suis bien évidemment repentie. Et puis, j'ai demandé pardon à Dieu de ne pas avoir obéi parce que ça reste important d'être dans cette démarche-là. Et puis, j'étais avec ma sœur Héloïse à l'époque qui était vers moi, qui j'ai 7 ans d'écart. Et on est proches et on discutait dans la cuisine. Et je lui dis, écoute, tu sais, je jette mon téléphone et puis je lui dis, tu sais quoi, de toute façon, que soit faite la volonté de Dieu, si je dois rester seule, je resterai seule. Et à ce moment-là, je reçois un message. Et là, c'est l'homme en question que Dieu m'avait dit, l'homme de l'église.
Le plus beau.
Ouais, le plus beau. Et du coup, j'avais ma sœur, elle me dit, tu m'écoutes plus là? Je lui avais dit, non, je t'écoute plus, ça me fait une voix en fond. En fait, il vient de se passer un truc incroyable. J'ai reçu un message, mais attends, je le relis, je suis pas sûre d'avoir compris. Alors, elle prend le téléphone, elle lit, elle me dit, non, c'est vraiment lui. Et je lui dis, ouais, je crois. Je lui dis, attends, pause, on se calme. Voilà comment ça va se passer. Je vais appeler le pasteur. Je vais lui en parler parce que maintenant, je ne fais plus rien sans l'aval de Manou. Et puis, on verra. Alors, j'appelle mon pasteur, Emmanuel Guarino, avec son épouse Véronica, et puis je dis, bah voilà ce qui se passe, etc. Et donc, Manu, bien évidemment, homme de foi, qui me dit, qui savait, et qui me dit, bah oui, va boire un café, c'est bien, Mylène. Je lui dis, t'es sûre, hein? Il me dit, si, si, Mylène, vas-y. J'ai dit, bon, ok, parce que pour ceux qui ne savent pas, mon pasteur est d'origine italienne, donc il y a des accents. Donc, il me dit, si, si, Mylène, vas-y. Et je lui dis, bon, d'accord. Alors, je réponds, je réponds à oui et je le remercie pour son message, mais quand même, malgré l'aval de mon pasteur, le plus important dans toutes ces épreuves, c'est tout ce qu'on apprend derrière. Et je lui dis, par contre, d'abord, je vais prendre un temps avec Dieu et ensuite, je répondrai à ton message, à ton invitation, si Dieu le veut. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un temps pendant 2 jours. J'ai pris un temps pendant 2 jours où je crois que j'ai arpenté toute la maison. J'y vais pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Enfin, bon, toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis Dieu m'ouvre la voie, me dit, bah si, vas-y, en gros, je t'avais déjà dit il y a 6 mois que c'était lui, t'as pas attendu. Bon, bah voilà, maintenant, bah voilà, vas-y, quoi, c'est j'y vais, c'est maintenant. Bon, ok, bon, bah alors je réponds, je dis d'accord, très bien pour se rencontrer, nanana. Et depuis ce 26 avril 2023, eh ben, nous ne sommes plus quittés. Ouais, et donc aujourd'hui, bah c'est mon mari légitime en crise, et je suis mariée
légitime en crise
2024.
Ah ouais, félicitations. Ouais, est-ce que tu t'attendais à... est-ce que en allant boire le café est-ce que tu t'attendais à ce que ça puisse déboucher sur une vraie relation, un mariage, un engagement de vie? T'en avais conscience à ce moment-là?
En fait, j'en avais conscience, oui, un peu, parce qu'en étant fille de Dieu, c'est-à-dire que quand on commence à accepter un rendez-vous, potentiellement, on se dit qu'il y a quelque chose derrière, et si ça va plus loin, ça va forcément déboucher au mariage. Alors la vraie question, c'était...
du café au mariage.
Ouais, pardon.
Non, mais bon.
Et du coup, je me disais, est-ce que vraiment, finalement, je suis prête? Est-ce que je suis prête pour ça? Parce que c'est pas parce que Dieu, en fait, Dieu m'a restaurée de façon extraordinaire, mais c'est quand même un processus de chaque jour. Donc, il fallait être sûr que ce soit la bonne personne. Et puis moi, je suis pas toute seule. J'avais un petit garçon. C'est pas comme quand on est tout seul, entre guillemets, et qu'on se dit, bah, ça marche pas, c'est pas grave. Là, j'engageais pas seulement ma vie, j'engageais aussi celle de mon fils. Donc, c'est pas rien, quand même. Donc, non, je m'attendais pas forcément à ça, d'autant plus que je m'étais promis que je me remarierais jamais, que j'aurais plus jamais d'enfants. Donc, forcément, c'est là aussi qu'on voit que Dieu est grand, c'est que quand on dit quelque chose, l'adage dit ne jamais dire jamais, mais pour le coup, bah, c'est vrai, en fait, il faut simplement se laisser guider, et accepter que Dieu fasse les choses aussi pour nous dans notre vie. Et vraiment, avec Henri, c'est ce qui s'est passé. Donc, avec notre épreuve à chacun, nos passés à chacun, où il faut recomposer avec un nouvel homme, et recomposer pour lui avec une nouvelle épouse. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a plus 20 ans, c'est pas le premier mariage, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, on le sait pas forcément. Et on apprend, en fait, au fur et à mesure. Mais par contre, ce qui fait vraiment toute la différence dans notre relation, c'est Dieu au centre. C'est-à-dire que moi, il le sait, Dieu, c'est Jésus, c'est l'homme de ma vie, c'est mon plus grand amour, c'est mon amour avant tous. Quand bien même je l'aime, quand bien même j'aime mon fils, c'est Jésus d'abord. Et donc ça fait toute la différence parce que on s'est beaucoup posé de questions. Et quand Dieu nous a donné le feu vert, et ben, on a dit, ok, c'est un vrai pas de foi. C'est un vrai pas de foi. En disant, bah là, je recommence ma vie. Et c'est un vrai pas de foi parce que je vous cache pas qu'il y a une notion de culpabilité, de refaire sa vie. Ça, c'est typiquement, j'ai envie de dire, un sentiment d'humain, qu'on soit homme ou femme. Parce qu'en fait, quand on vit une épreuve de veuvage, en tout cas, on a l'impression, on a une forme de culpabilité qui dit, Et si je le fais, si je rencontre quelqu'un d'autre, si j'aime une autre personne, est-ce que ça va pas froisser l'autre? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Est-ce que, vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui se mettent en place. Et je veux répondre non. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir, en fait, parce que le décès, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est pas comme un divorce ou quelque chose. Le décès, c'est quelque chose qu'on subit. Et donc, Dieu est le Dieu de tout. C'est un sauveur, c'est un seigneur, il peut tout faire. S'il avait voulu guérir Gauthier, il l'aurait fait. Ça s'est pas fait, il y a une raison. Le pourquoi, je le sais pas et j'ai pas à connaître cette raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il sait. Et donc, j'ai pas de culpabilité à avoir. Je ne trompe personne. Il y a cette notion, en fait, de tromper quand on est veuve. Et veuf, s'il y a des hommes qui nous regardent, on a l'impression, en fait, qu'on trompe la personne. Comme un serment, vous voyez, on s'est promis fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort nous a séparés et pourtant, on ressent une forme de culpabilité. Et donc ça, c'est terrible parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma relation avec Henri, je me disais, mais vraiment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pensais à la famille de Gauthier, comment ça va être accueilli, est-ce que c'est bien? Enfin, bref, plein de questions comme ça dans la tête. Et en fait, quand c'est Dieu qui donne, quand on obéit à la voix de Dieu, alors tout est aplani et tout se passe bien. Il a déjà tout fait pour nous. Il a déjà dégagé la voie. S'il nous a dit que c'était là maintenant, c'est que ça c'est maintenant. Et donc ça m'a apporté une réelle paix. Et je me suis mariée vraiment le cœur en paix, avec la plus grande joie. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir ce témoignage-là, parce que c'est une vraie forme d'espérance aussi pour toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, je pense vraiment qu'il y a la vie après la mort, et ça, c'est une vérité. On peut pas dire autre chose que ça. et vraiment, j'en suis la preuve. Et donc, voilà, donc c'est chouette, c'est des beaux moments de vie que Dieu nous offre, et il faut aussi savoir les saisir. La vie est courte. Oui. Je sais pas quand est-ce que moi, je vais partir aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas passer à côté de ce bonheur-là, parce que Dieu vraiment m'a béni. J'ai toujours tendance à dire à tout le monde, et à mon mari, à mon fils aussi, et puis je dis à nos enfants, mais à ses enfants, à lui, de sa première union, je dis toujours aux enfants à la maison, je suis vraiment une femme bénie entre toutes les femmes, parce que vraiment, j'ai eu un premier mari extraordinaire, que j'ai aimé, avec qui j'ai eu un enfant qui est magnifique. Dans la douleur, Dieu m'a pas abandonnée. Il m'a tout donné. Il me donne un deuxième mari qui est tout aussi extraordinaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne sais même pas quoi demander, tellement je suis heureuse. Des fois, je me dis, demandez grand et vous aurez grand. Et du coup, je me dis, en fait, de par ce que je suis passée, je ne sais pas ce que je pourrais demander de plus. Tellement Dieu m'a bénie au-delà de tout ce que je pouvais espérer.
Gloire à Dieu, c'est vraiment un magnifique témoignage, Mylène, et c'est bien que tu aies parlé aussi de cette culpabilité-là. Dès l'instant que tu as la paix du Seigneur, le Seigneur va tout aligner, en fait. Il faut pas se poser un million de questions, il est là pour aligner. Et je pense que on peut prendre un temps, avec les 2 minutes qui nous restent, on peut prendre un temps pour prier justement pour toutes ces personnes qui sont là, qui écoutent aujourd'hui et qui se disent « Seigneur, mais fais aussi pour moi ce que tu as fait dans la vie de Mylène. » On voit comment tu l'as relevée, tu l'as restaurée. Elle a même pu se remarier et dit qu'elle est la femme la plus heureuse au monde. Et on peut vraiment prier et demander ça à Dieu pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as fait pour Mylène, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce magnifique témoignage de vie. Et on croit que ce que tu as fait pour Mylène, c'est disponible pour toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur Jésus. On veut prier pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, ces personnes qui sont dans le deuil aujourd'hui. Toi, le Dieu de consolation, nous t'invitons dans ces cœurs afin qu'il y ait une restauration totale, une restauration profonde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui essuie les larmes. Alors pour toutes les femmes qui pleurent aujourd'hui, nous demandons, nous réclamons que les larmes soient essuyées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens donner un vêtement de louange à une femme aujourd'hui, un vêtement de louange, qu'elle se rappelle comment tu l'as bénie, qu'elle se rappelle ces beaux temps qu'elle a passé avec cet être cher qui est peut-être parti, qu'elle voit, Seigneur, ce qui est encore présent dans sa vie et qu'elle puisse glorifier ton nom, qu'elle puisse glorifier ton nom aujourd'hui. Seigneur, nous demandons ce vêtement de louange et toi qui es en train de pleurer, essuie tes larmes, car Dieu est avec toi. Tu peux déverser ton cœur. Tu peux lui dire où tu en es aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là et il est fidèle. Seigneur, merci parce que tu fais un travail de fond dans la vie des personnes qui nous écoutent. Tu fais un travail profond, un travail qui nous dépasse. Et Seigneur, on prie pour l'œuvre de restauration. Il y a une œuvre de consolation, mais il y a aussi une œuvre de restauration. Seigneur, merci parce que tu restaures ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur parce que tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Tu as dit le soir, viennent les pleurs, mais au matin, vient l'allégresse. Seigneur, nous déclarons ce matin dans la vie de toutes les personnes qui ont souffert parce qu'un être cher est parti. Nous déclarons le matin, nous déclarons les champs d'allégresse, nous le déclarons, nous déclarons une nouvelle saison, une saison de vie, une saison de joie, une saison de restauration par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous venons déclarer cette saison dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Merci pour les témoignages. Merci parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont ouverts pour vivre des choses nouvelles. Nous ouvrons nos cœurs. Tu peux le dire à Dieu aujourd'hui. J'ouvre mon cœur pour vivre cette nouvelle saison avec toi, Seigneur, cette saison de joie, cette saison de paix, cette saison où la culpabilité ne me ronge pas. J'ouvre mon cœur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia.
Amen. 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 Il y a une fin pour toi. La saison de deuil est terminée. Si tu acceptes de recevoir et de revêtir ce vêtement de louange, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et le temps pour rire est arrivé aujourd'hui pour toi dans ta vie. Tu as juste à accepter par la foi et sans culpabilité aussi que oui, c'est une nouvelle saison où tu as le droit de rire et tu as le droit de te réjouir. Un grand merci, Mylène, d'avoir partagé avec nous ton histoire et merci d'avoir été aussi honnête et authentique sur tout ce que tu as pu vivre. C'est très beau ce que Dieu a fait dans ta vie, comme on le dit, et bien ce que Dieu a fait dans ta vie, il le fait aussi dans ta vie à toi qui nous suis. Et oui, tu peux arriver au point où tu peux dire comme il y a, je ne sais même pas quoi demander tellement j'ai tout reçu. Ça peut sembler fou aujourd'hui, mais que ce soit ton témoignage de demain, que toi aussi tu sois une femme comblée comme Mylène a pu être parce que elle a laissé toute la place au Seigneur Jésus dans sa vie. Donc un grand merci Mylène, on te dit à
merci
bientôt. Et puis à vous tous, et bien on se retrouve mercredi pour une prochaine émission. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.